on vit une période d'inflation extraordinaire, et je ne parle pas du prix de l'essence, là, qui monte, mais une inflation de bonnes paroles, des vœux de bonheur, des souhaits de réussite, de prospérité, tout de bon, disent les Suisses, plein de bonnes choses, disent les autres. Alors j'ai envie de dire, moi c'est gentil, mais arrêtez, n'en jetez plus. Mais en même temps, je ne veux pas cracher dans la soupe, ni faire la grimace. J'aime bien recevoir des bons vœux, ça montre que des gens pensent à moi, et que quand on en fait, qu'on pense à quelqu'un d'autre. Mais l'impression générale, quand même, c'est qu'on en rajoute quand même un tantinet. Et on peut se demander, avec raison, quel est le poids de ces paroles et de ces vœux de début d'année. Est-ce que ce seraient des paroles en l'air, du bla 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 bla, ou comme des promesses électorales qui, comme chacun sait, n'engagent que ceux qui y croient et jamais ceux qui les disent? Oui, on peut s'interroger sur le poids donné à ces paroles qui sont dites un peu en l'air, dans l'air du temps, de début janvier. Mais il me semblait en tout cas, que nous avons besoin de retrouver des paroles vraies, des paroles solides, des paroles dites par quelqu'un qui le serait tout autant solide, quelqu'un de confiance, des paroles sur lesquelles on peut appuyer vraiment une vie, des paroles qui seraient dignes de foi. Et en cette fin d'après-midi du 1er janvier 2017, j'aimerais simplement partager avec vous quelques paroles de Dieu pour cette année, des promesses de Dieu. Des paroles 2017, des paroles en l'air ou des promesses à saisir, des promesses à vivre pour 2017. En commençant par le champion des promesses, de la promesse à vivre, et j'ai nommé Abraham, un homme qui a impressionné des générations par sa capacité de vivre sa vie sur la promesse de Dieu, sur la foi, qui a impressionné Kierkegaard. Vous connaissez Kierkegaard, vous vous souvenez de vos études de philosophie, vos cours de philosophie. Kierkegaard, le père de l'existentialisme, non pas athée comme Sartre et Camus, mais chrétien, et qui parlait d'Abraham comme étant celui qui avait sauté dans un trou de 70 000 mètres de profondeur, le saut de la foi. L'homme de foi qui se base sur une promesse. Et Paul aussi. Paul de Tarse a été impressionné par Abraham, puisqu'il écrit aux Romains, on va lire ce verset, mais vous savez, c'est ce verset où il dit, où Abraham espéra, ou espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations. Et voilà ce qui est dit un peu plus loin. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis. Il a aussi la puissance de l'accomplir. Ça, c'est Abraham. Et on ne le sent pas trop en français, mais dans l'original, en grec, ce verset est incroyablement dynamique. On y parle d'une foi qui ne serait pas statique, mais qui serait toujours en mouvement. D'ailleurs, les auteurs du Nouveau Testament, je crois que ce n'est pas la première fois que je vous le dis, mais ont inventé, pour parler de la foi chrétienne et celle d'Abraham en particulier, une nouvelle expression inconnue du grand public de l'époque. Il ne s'agit pas de croire en, dans, qui serait très statique, je crois en, dans, mais de croire vers, avec un mouvement. Je crois vers, comme un élan pour le grand saut de la foi. Et dans notre texte, deux fois, c'est mentionné au verset 20, mais face à la promesse, normalement dans l'original, c'est « vers la promesse, il ne douta point ». Et au verset 18, qui n'est pas sur l'écran, « il crut vers le fait d'être le père d'un grand nombre de nations ». Il crut vers le fait d'être le père. Il crut vers la promesse. Il ne douta pas vers la promesse. Il s'engagea complètement vers cette promesse. Et pourtant, il espérait contre toute espérance. Il n'y avait pas trop d'éléments tangibles pour croire en la promesse d'une grande descendance. Son épouse et lui-même avaient passé l'âge de ce genre de choses. Mais Abraham prit son élan pour croire en la promesse de Dieu, pour prendre Dieu au mot. Et quelqu'un disait, avec beaucoup de justesse, que la foi, c'est justement ça, c'est prendre Dieu au mot. Dans la Bible, les chrétiens, vous et moi, nous sommes appelés les enfants de la promesse, bénéficiaires de la promesse qui a été faite à Abraham, mais pas seulement bénéficiaires, mais aussi appelés à vivre de la même manière qu'Abraham avec la même foi qui prend Dieu au mot de ses promesses. Mais en ce début d'année, je voulais vous proposer trois promesses que Dieu a pour nous. Il y en a beaucoup d'autres, mais il fallait choisir, et j'ai choisi. Mais peut-être que vous penserez à une autre promesse, et vous avez bien sûr le loisir de le faire. Première de ces promesses à saisir, elle concerne le domaine des épreuves qui font partie de la vie et qui feront partie de l'année 2017. On peut en être sûr, il y en aura des épreuves. On ne connaît pas l'intensité de ces épreuves, mais il y a une promesse de Dieu qui est faite par l'intermédiaire de Paul à l'égard de ces épreuves. Paul, écrivain inspiré par Dieu lui-même. Et voici ce qu'il nous dit. Voilà la promesse. Aucune épreuve ne vous est survenue ou ne surviendra qui n'ait été humaine. Or Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Et il y a deux aspects dans cette promesse. D'abord, le premier aspect, c'est que Dieu promet que l'épreuve ne sera pas au-dessus de nos forces. Et l'image que vous avez à côté est un flagrant délit de surcharge. Mais c'est un âne, et nous sommes des hommes. Et Dieu nous promet qu'il n'y aura pas de surcharge. Nous sommes entre les mains de Dieu, qui nous connaît, nous, et nos capacités. On est un petit peu avec cette promesse que l'épreuve ne sera pas au-dessus de nos forces, comme dans le livre de Job, où Dieu permet à l'adversaire de mettre Job à l'épreuve, mais qui lui dit aussi à cet adversaire, jusque-là, mais pas plus loin. Alors on peut se poser la question de nos forces ou des limites de nos forces. Quelles sont les limites du supportable pour moi? Qu'est-ce que je peux supporter? Mais c'est heureux, nous ne connaissons jamais nos limites. Ce serait tellement angoissant de les connaître. On serait dans la peur de toujours les dépasser. Mais Dieu connaît nos limites et il ne permettra pas qu'elles soient dépassées. Alors c'est terrible parce que cette promesse, Dieu promet que l'épreuve ne sera pas au-dessus de nos forces. On pense à des tas d'épreuves que des gens ont vécues qui semblent insupportables. Si on avait dit à Corrie ten Boom, cette jeune Hollandaise, qu'elle irait à Ravensbrück et qu'elle perdrait, c'est un camp de concentration, qu'elle perdrait ses parents, son frère et sa sœur, elle aurait dit « mais c'est insupportable, je ne pourrais jamais supporter ça ». Et pourtant, elle a été à Ravensbrück, elle a perdu toute sa famille et elle n'a pas été anéantie. Au contraire, elle a puisé dans cette épreuve une force considérable et elle a eu depuis et pendant 50 ans qui ont suivi un ministère d'encouragement à travers le monde absolument incroyable. Mais quand même. Mais il y a un deuxième aspect dans cette promesse, dans l'épreuve, dans 1 Corinthiens 10, 13. Dieu promet une issue à l'épreuve. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Mais si on regarde bien, si on réfléchit bien, il y a un petit problème dans la phrase. Si Dieu donne une issue à l'épreuve, c'est-à-dire une sortie, pourquoi faudrait-il encore la supporter puisqu'on en serait sorti? S'agit-il vraiment d'une sortie d'épreuve? Il semble que Paul ici veut exprimer cette vérité de la part de Dieu, que Dieu, plus qu'une sortie d'épreuve, qu'une fin de l'épreuve, promet la patience et la persévérance dans l'épreuve pour qu'on puisse la supporter. Et c'est ça qui constitue justement l'issue de l'épreuve, de pouvoir la supporter. Et on pourrait traduire grammaticalement, c'est tout à fait possible, avec l'épreuve, il donnera aussi l'issue qui consiste à la supporter. Et donc cette issue à l'épreuve, cette sortie, cette solution, ce n'est pas toujours, parfois ça arrive, mais de la voir disparaître, cette épreuve, comme par enchantement, mais une capacité accrue à pouvoir la supporter. Et c'est cette promesse que Dieu nous fait pour 2017. Il nous promet de nous donner la force nécessaire pour supporter cette épreuve ou ces épreuves. Il veut nous donner une force supplémentaire, une grâce surajoutée, une patience et une persévérance à toute épreuve. Alors vous me direz que ça ne change pas grand-chose au niveau de l'épreuve, et vous auriez raison. Mais cela change beaucoup au niveau de ma vie personnelle face à l'épreuve et cela change énormément au niveau de la paix face aux épreuves de 2017. Si Dieu promet que rien ne sera au-delà de mes forces et qui, en plus, il me donnera la force en temps voulu pour pouvoir la supporter, je peux vivre dans la paix, la vie que Dieu me donne en 2017. Cette paix que le monde ne connaît pas. Et vous savez, il me semble que bien souvent, on vit l'angoisse de l'épreuve par anticipation. Oh, si demain, ou en mars, ou au printemps, il m'arrive quelque chose, je ne le supporterai pas. Ou par projection, s'il m'arrivait quelque chose, la même chose que ce qui leur est arrivé, je ne le supporterai pas. Mais avec cette promesse dans Corinthiens 10, 13, je peux regarder la vie avec cette paix que Dieu donne et que le monde ne connaît pas. Une promesse à vivre dans la paix, une promesse à saisir par la foi. Deuxième promesse à vivre, c'est une promesse qui ne concerne que deux ou trois personnes parmi nous. Ceux qui ont des soucis au travail, qui ont des soucis d'argent, qui ont des problèmes avec l'administration ou avec leur famille. Des gens inquiets pour l'avenir immédiat ou lointain. Ça fait très peu de gens, n'est-ce pas? Une promesse qui concerne l'inquiétude. Et c'est Pierre qui s'en fait le messager. 1 Pierre 5, 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et qui pourrait dire en ce 1er janvier 2017 que cette promesse ne le concerne pas et qu'il n'en a pas besoin? Moi pas. Un jour, quelqu'un m'a dit que ses inquiétudes et ses angoisses l'enveloppaient, le cernaient, l'étouffaient pratiquement. Et oui, les angoisses et les inquiétudes peuvent nous entourer jusqu'à l'étouffement. Mais quand Dieu dit par Pierre de nous décharger, il choisit un verbe qui est utilisé autre part pour un manteau ou pour un par-dessus. Déchargez-vous. Comme dans un resto chic où on vous dit « je peux vous débarrasser ». Débarrassez-vous de votre manteau. Dieu nous invite à nous débarrasser de nos soucis comme on se débarrasse d'un manteau et qu'on le laisse au vestiaire. Et si Pierre nous invite à laisser nos soucis au vestiaire éternel, c'est parce qu'il sait une chose d'expérience, Dieu lui-même prend soin de nous. Et c'est là la promesse, mais elle n'est pas au futur, elle est au présent. Dieu prend déjà soin de nous, alors déchargez, déchargez, déchargez. Et le fait de décharger n'est même pas une condition à la réalisation de la promesse. Si vous vous déchargez, il prendra soin de vous, non. Mais c'est plutôt une conséquence, déchargez-vous sur lui, puisque Dieu prend soin de vous. Puisqu'il prend soin de vous, débarrassez-vous, transférez sur lui la charge de l'inquiétude. Et le problème, faut-il le rappeler, ne disparaissent pas pour autant les problèmes par enchantement. Et Pierre écrit à des chrétiens qui sont sous la persécution, mais le poids de l'inquiétude peut être transféré sur Dieu et doit l'être. Et il semble que Pierre a pour une fois bien reçu et intégré l'enseignement de Jésus dans son sermon sur la montagne au sujet de l'inquiétude. Il a plus que retenu, il a intégré, il a digéré, et il semble même expérimenter cette parole de Jésus. « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car si Dieu prend soin des moineaux et des fleurs des champs, pourquoi ne prendrait-il pas soin de vous, les humains qu'il aime tout particulièrement ?» Un verset à répéter chaque matin, surtout dans ces temps-ci, où nous vivons des temps porteurs d'inquiétude, d'angoisse. Et dans ces versets, Pierre met aussi l'aspect sur un autre domaine, celui de l'humilité. Et il lie cette décharge d'inquiétude sur Dieu à la question de l'humilité. Et quelques phrases avant, il dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu » et on pourrait continuer en disant « Vous déchargeant sur lui de tous vos soucis ». Que fait-on en se déchargeant sur Dieu de tous nos soucis? On pratique simplement l'humilité dans la vie quotidienne avec Dieu. Quand on est prêt à lâcher, à se débarrasser de son manteau de soucis, on abandonne en même temps la veste de notre entêtement, peut-être même notre orgueil à vouloir assurer tout seul notre avenir. Quand on laisse ses soucis à Dieu, on abandonne en même temps notre grand souci de vouloir contrôler sa vie, avoir la main mise sur elle. Et se décharger sur Dieu, ce n'est pas juste une thérapie pour les angoissés de la vie, c'est véritablement un acte d'humilité devant Dieu. « Seigneur, je te laisse mes soucis et je te laisse contrôler ma vie. Je te fais confiance pour ma vie complètement. J'abandonne le contrôle qui m'angoisse mais qui me sécurise en même temps. Je te laisse. » Et je termine cette deuxième promesse, comme pour la première, en insistant sur le mouvement vers. Croire vers la promesse. Le mouvement intérieur, celui de l'âme ou de notre esprit, qui ne croit pas en, mais qui croit vers, une foi qui se mobilise, qui prend Dieu au mot et qui laisse son manteau de l'inquiétude pour l'année 2016, ou au vestiaire de l'année 2016. J'ai une troisième promesse. Une promesse un petit peu particulière. Elle vous paraîtra un peu étrange, mais elle parle bien de ce mouvement de la foi. C'est une promesse qui est un peu liée à notre action, comme une promesse de retour par rapport à notre engagement. Une promesse de Jésus lui-même qui nous dit que Dieu répond, que Dieu se laisse trouver, que Dieu ouvre. Ça, c'est une promesse. Demandez et vous recevrez. Il y a des ressources derrière. Il y a Dieu qui a des choses à notre disposition. Cherchez et vous trouverez. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il est proche. Frappez et l'on vous ouvrira. Il y a quelqu'un derrière la porte. Et j'aime aussi cette parole de Jésus qui nous parle de mesure. Que les choses nous seront données avec la mesure dont nous nous sommes servis pour donner. Une parole de Jésus qui nous parle en fait de notre ouverture de cœur et de notre générosité. Regardez. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, bien tassée, secouée pour éliminer les scories et débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous serez servi pour mesurer. Autrement dit, donnez sans mesure et on vous donnera sans mesure. Une mesure en tout cas bien tassée, secouée, débordante. Comme la vie abondante dont Jésus nous parle aussi, une générosité du cœur qui contient bien des promesses d'abondance. Et si 2017 était marqué par cela également, par cette foi que la générosité du cœur remplit et qui le fait abondamment. Une promesse pour l'action, donnez sans mesure et on vous donnera sans mesure. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Voilà, je termine avec ces trois promesses de la parole de Dieu. Celle d'une épreuve qui ne sera pas au-dessus de nos forces et d'une persévérance dans l'épreuve et d'une persévérance à toute épreuve dans l'épreuve. Celle d'un manteau de soucis dont on peut se débarrasser car Dieu lui-même prend soin de nous. Celle d'un Dieu qui répond, qui se laisse trouver, qui ouvre la porte à celui qui frappe. À ceux justement qui font ce mouvement vers lui. Et donc moi, je nous invite à nous saisir de l'une ou l'autre de ces promesses, aux trois à la fois et aux autres, à nous en saisir et à faire ce mouvement de la foi. Elles sont à vivre ces promesses et non pas à regarder comme on regarde un tableau dans un musée, elles sont à vivre comme dans un tableau vivant où je suis un des acteurs, mais où est l'acteur principal. Et notre Dieu en qui nous pouvons avoir confiance, un Dieu qui tient toutes ses promesses. Et je termine par cette citation de Dietrich Bonhoeffer, ce pasteur allemand résistant au nazisme, mort dans les prisons d'Hitler. Dieu réalise non tous nos désirs, mais toutes ses promesses. Dieu tient ses promesses à nous de nous en saisir par la foi.